Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la démonologie. Nous arrivons à l'étude numéro 15 et nous commencerons par le cas numéro 3 de Lynn. En grandissant, Lynn éprouva dans sa vie énormément de problèmes, mais ce ne fut qu'à l'âge de 25 ans qu'elle commença à en découvrir la raison. Pendant toutes ses études secondaires, elle se drogua continuellement. Elle buvait aussi énormément. Finalement, à l'âge de 19 ans, certains adolescents de son âge lui annoncèrent l'Évangile. Elle accepta Jésus-Christ à l'âge de 19 ans, mais elle continuait à avoir de terribles combats. Elle arrêta tout, sauf la marijuana. Avant d'atteindre l'âge de 21 ans, le Seigneur lui montra clairement qu'elle n'avait pas vraiment fait de Jésus-Christ le maître de sa vie. Ce fut alors qu'elle abandonna enfin la marijuana. Mais le seul fait d'arrêter et de se droguer ne régla pas les problèmes de Lynn. Elle continuait à lutter contre une profonde dépression et éprouvait de très grandes difficultés dans sa vie chrétienne. À l'âge de 25 ans, elle avait déjà fait une vingtaine de tentatives de suicide. Ça paraît invraisemblable, mais c'est vrai. Elle avait des problèmes physiques continuelle et son appareil génital la faisait énormément souffrir. Finalement, elle se maria, mais ses relations sexuelles étaient extrêmement douloureuses, pour ne pas dire presque impossibles. Elle avait de profondes cicatrices au vagin et à l'utérus qu'elle ne pouvait absolument pas expliquer. Au cours de sa 25e année, elle commença à consulter un psychologue chrétien. Au cours de ses entretiens avec lui, elle réalisa brusquement qu'elle n'avait plus aucun souvenir de son enfance, comme si tout ce qui concerne son enfance était éradié, effacé. Au cours des 7 années suivantes, avec beaucoup de difficultés, elle commença à se rappeler certains souvenirs de son enfance jusqu'à ce qu'elle ait pu assez bien reconstituer ce qui lui était arrivé. Alors elle eut recours à plusieurs conseillers chrétiens. Mais le simple fait de retrouver ses souvenirs ne fut pas suffisant. D'une manière ou d'une autre, il fallait qu'elle mette un terme à ses tourments et aux difficultés qu'elle rencontrait dans sa marche avec le Seigneur. Un jour, elle comprit qu'elle devait avoir besoin de délivrance. Elle avait alors 34 ans. Lynn avait subi des violences sexuelles rituelles dans sa petite enfance et aussi pendant son adolescence. Donc, l'histoire de Lynn est longue, est très complexe. Aussi, nous allons essayer de résumer ici, puis terminer par la liste de ses portes d'entrée. Lin était né dans une famille dont le père était sataniste. Lin ne sait pas jusqu'à quel point sa mère avait été impliquée dans le satanisme. Au cours de l'enfance de Lin, sa mère avait passé beaucoup de temps à l'hôpital. Lin fut consacrée à Satan lorsqu'elle était bébé et plus précisément au prince Seth et au Père éternel, c'est-à-dire Satan. L'un de ses souvenirs les plus anciens était qu'on avait placé en elle quelque chose d'effrayant, ce qui devait probablement être un démon. Elle a dû passer par diverses cérémonies de purification qui comportaient toutes des rites sexuels. On la força à avoir des relations sexuelles avec des hommes, voire même avec des animaux et des démons. On l'utilisa aussi dans la pornographie infantile et dans les films roses. On abusa d'elle en commettant toutes les perversions sexuelles possibles. Au cours de l'une de ces cérémonies, on versa même du sel dans son vagin. Voyez-vous, ceci n'est pas quelque chose qui pourrait passer pour innocent, mais c'était un rite très fréquent, car le sel est toujours utilisé dans l'occultisme pour, en quelque sorte, faire entrer des démons de destruction. Ensuite, sans aucun doute, tous les enfants qu'elle devait avoir par la suite avaient été consacrés pour être sacrifiés à Satan, évidemment. Ces rites où l'on emploie le sel sont parfois appelés aussi des rites de protection par le sel. Lin se rappelait avoir assisté à de nombreux sacrifices animaux et même humains, que ce soit des enfants ou même des adultes. On l'avait même forcé à manger la chair des victimes et à boire leur sang. Certains de ces sacrifices comportaient un rite où il fallait se laver les mains dans le sang des victimes. On lui donna un nom secret qui était en réalité un nom satanique. Ce nom lui fut donné au cours d'une cérémonie dite de renaissance. Au cours de cette cérémonie, elle fut placée dans la cavité abdominale d'un homme qui venait d'être sacrifié. Elle fut aussi mise dans un cercueil et enterrée pendant un certain temps, et puis elle passa par une soi-disant renaissance lorsque on déterra le cercueil. La terreur qu'elle éprouva au cours de ces rites dépasse carrément tout ce que l'on peut décrire. À l'âge de 4 ans, Lin subit de telles violences sexuelles qu'elle faillit en mourir. Voici comment Lin décrit cette expérience dans le récit qu'elle a fait elle-même de ses souvenirs. « Je me rappelle que j'étais allongée, dit-elle, sur une table froide et que des lumières vives me faisaient mal aux yeux. je devais comprendre ce qui se passait parce que je savais que je pouvais en mourir et je le voulais réellement. Je peux me rappeler que j'ai laissé les ténèbres me saisir. Ces ténèbres me semblaient merveilleuses. Plus de douleur, plus de blessures, plus de larmes, rien qu'une chaleur et la sensation d'une patience éternelle. J'ai pleinement compris cela. C'était un peu comme si je disais « Nous avons toute l'éternité, calme-toi, ne te précipite pas, relaxe-toi, remplis-moi. » Puis, tout à coup, j'ai vu le Seigneur Jésus, debout à mes pieds. Oh, quelle félicité je ressentis lorsque je vis sa face. Quel amour, quelle patience et quelle tristesse. J'ai eu aussitôt l'impression que je voulais courir, me débattre et lutter pour m'approcher de lui et pour sauter dans ses bras. Mais c'était comme si un père maintenait fermement son enfant de 3 ans en la soulevant légèrement pendant que ses pieds se débattent encore. J'étais donc frustré et je me mis à crier « Seigneur, je veux aller à la maison chez toi ». Et ce fut à ce moment-là que j'ai pu voir nettement la tristesse de son visage que j'avais déjà brièvement remarqué auparavant. J'éprouvais soudain dans mon cœur de la terreur et de la panique parce que je savais que je ne pourrais pas rester avec lui. Il fallait que je retourne. La petite fille que j'étais, elle hurlait, donc je hurlais de terreur et de souffrance. « Jésus, je t'en prie, mon grand frère, je t'en prie, ne me dis pas que je dois retourner chez eux. » Eh bien, tout cela fait très mal. Je voulais rester avec le Seigneur. Je criais ainsi sans cesse. Je le suppliais. Puis, j'éclatais en sanglots, sachant que je devais retourner parce que c'était ainsi. Il ne fit pas un geste. Il plongea seulement ses regards dans mon cœur et dans mes pensées, hocha la tête et dit « Pas encore, ma petite fille, mais tu comprendras un jour, car je t'aime. » Il me dit encore autre chose, mais je ne me rappelle pas tout. Soudain, je me sentis giflé au visage. Et là, j'ai pu revoir les lumières brillantes. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, c'était évidemment un instant, un court instant, où mon esprit a pu s'échapper. Mais maintenant, je devais rouvrir les yeux. J'étais fâché parce que j'étais en quelque sorte retourné dans ce lieu, mais je n'avais pas le choix. Depuis ce moment, il y a toujours eu une lutte en moi entre deux choses contradictoires, c'est-à-dire le désir de partir vers ma demeure céleste et le fait de savoir que j'avais encore quelque chose à faire ici-bas. Après cette expérience où j'ai frôlé carrément la mort, je savais au plus profond de mon cœur que la secte satanique me mentait. J'étais fâché de ne pas avoir pu partir avec le Seigneur, mais je m'accrochais à cette expérience. Je fis ce qu'ils m'ont demandé de faire, mais j'étais décidé à ne jamais me laisser prendre complètement par eux. Je savais que la lumière était plus forte que le prince Seth, ainsi que le Père éternel Satan. Pourquoi avait-il si violemment dérangé une petite fille de 3 à 4 ans qui parlait à la lumière? Chers auditeurs et chères auditrices, veuillez s'il vous plaît écouter sur Internet 3xw.bibleexplique.ch et là vous pouvez trouver la série d'études intitulée « Les enfants de la lumière ». Je vous prie d'essayer de trouver cela car ça va changer toute votre vie. Vous pouvez me croire. Mais revenons donc à Lynn. Finalement, la victoire avait été remportée malgré tous les tourments que a dû encore subir Lynn après ce jour. Les satanistes n'ont pas pu contrôler complètement son intelligence. Depuis ce jour, une partie d'elle-même appartenait maintenant à Jésus. Cependant, plus tard, lorsque Lynn accepta effectivement Jésus, lorsqu'elle fut adulte, eh bien ce mur restait installé dans son cerveau. Elle ne pouvait pas lire la Sainte Bible et elle éprouvait les plus grandes difficultés à prier. Au cours de sa délivrance, lorsque ce mur fut brisé, elle fut enfin libérée et elle fut alors capable de lire les Saintes Écritures, de les apprendre et de prier sans aucun problème. Lynn apprit rapidement, on peut dire à voler, selon sa propre expression, de ses propres ailes. Il s'agissait en réalité de certaines projections astrales. Elle apprit aussi rapidement à s'évader de son corps, à faire le vide dans ses pensées et à se glisser hors de son corps pour échapper aux souffrances physiques qu'elle devait subir et qui étaient terribles, insupportables. Maintenant, voici la liste des portes d'entrée aux démons dans sa vie, ainsi que la manière dont les pasteurs ont abordé sa délivrance des démons. Il y a tout d'abord l'hérédité, la consécration à Seth et à Satan, appelé Père éternel, lorsqu'elle était bébé. Chose effrayante, il y avait quelque chose qui a été placé en elle lorsqu'elle était bébé. Nous avons les péchés sexuels, les violences sexuelles, les orgies sexuelles, les cérémonies sexuelles rituelles, l'homosexualité, la pornographie, les films roses, les relations sexuelles avec des démons, avec des animaux, également avec d'autres enfants. Tout ça, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Il y avait la protection rituelle par le sel, la cérémonie de renaissance, le sacrifice humain, le cannibalisme, l'absorption de sang et les pactes de sang. Lynn pria pour chaque porte entrée et elle confessa les péchés et elle ferma les portes et commanda à chaque démon entré en elle de partir par le saint nom de Jésus-Christ. Il fallait à différents pasteurs, 3, Il leur fallait à peu près 3 jours, simplement, pour épuiser toute la liste des portes d'entrée. Le combat fut intense, parce que Lynn était trop habituée à échapper aux tourments en faisant simplement le vide dans ses pensées ou en faisant une projection astrale hors de son corps. Sans cesse, Lynn oubliait le sujet auquel elle devait prier. Elle n'arrivait donc pas à chasser les démons par elle-même et à leur commander de partir au nom de Jésus. Les démons faisaient le vide dans ses pensées ou la poussaient à faire une projection astrale. Pendant une bonne partie de la délivrance de Lynn, les pasteurs qui l'ont aidée ont dû rester debout et arpenter la pièce pour l'aider à rester éveillée et pour les aider eux-mêmes à rester éveillés et vigilants. Au début de sa délivrance, on demanda à Lynn de chasser Tal, son esprit guide démoniaque. À ce moment-là, elle éprouvait encore certaines difficultés à faire la différence entre ce qui venait d'elle et ce qui venait du démon. Elle était tellement habituée à avoir des esprits démoniaques habitant en elle qu'elle avait des difficultés à faire la différence entre ses esprits et elle-même. La délivrance de Lynn commença à progresser avec beaucoup plus de facilité par la suite, une fois qu'elle a eu appris à reconnaître la différence entre les démons et elle-même. Finalement, après avoir beaucoup prié, eh bien, les pasteurs ont compris qu'elle avait besoin de confesser comme un péché le fait d'avoir presque complètement abandonné l'usage de sa libre volonté. Puis il fallait qu'elle demande au Seigneur de lui restaurer l'usage de sa libre volonté. Le combat pour faire cette confession, puis pour faire cette prière, fut l'un des plus intenses de sa délivrance. Mais Lynn finit par y parvenir et la victoire fut remportée. Lorsque ceci fut fait, elle fut alors capable de s'adresser aux démons qui étaient entrés en elle par ses pratiques et enfin de les chasser par le saint nom de Jésus-Christ. Heureusement, Lynn avait gardé suffisamment de contrôle sur sa vie pour ne pas avoir une personnalité multiple comme en ont tellement d'enfants violentés. Je me pose encore de grandes questions moi-même concernant tout ce domaine des personnalités multiples. Je crois fermement qu'un très nombreux ou un grand nombre de ces personnalités multiples ne sont que des démons qui prennent le contrôle de la personne et se manifestent comme une autre personnalité. Mais je me demande quand même si une abdication de la libre volonté n'entraîne pas un véritable fractionnement de la personnalité. La confession de ceci comme péché, suivie de la prière pour que le Seigneur restaure la libre volonté de la personne, pourrait-elle alors permettre d'intégrer à nouveau la personnalité? J'admets volontiers que je n'ai pas une pleine compréhension de ce problème complexe, ni des solutions à y apporter. Mais je crois fermement que le Saint-Esprit donnera aux responsables chrétiens qui aident de telles personnes tout ce qu'il faut pour pouvoir les aider. Un autre domaine difficile était celui de la domination exercée par Michael sur la vie de Lynn. Quelques années auparavant, un psychiatre avait tenté de faire régresser Lynn jusqu'à l'âge de 6 ans pour qu'elle puisse déclarer rompu le lien qui la liait à Michael. Mais Lynn fut incapable de faire cela, car un petit enfant ne pouvait pas avoir la force de résister à un adulte affermi, spécialement à un adulte qui avait recours à des violences sexuelles pour la punir. Bien entendu, Lynn n'avait pas pu briser un tel lien. Il lui fallut donc la puissance de Jésus-Christ pour pouvoir le faire, mais elle ne disposait pas de cette puissance à l'âge de 6 ans. Et on le comprend. Alors que actuellement, à l'âge adulte, elle pouvait avoir en Jésus la force de trancher ce lien-là. C'est le piège béant dans lequel tombent beaucoup de psychologues et de psychiatres. Ils demandent à une personne de se rappeler un événement qui s'est produit pendant son enfance. Puis, il demande à cette personne de régler ce problème avec sa personnalité d'enfant, comme c'est absolument ridicule. Si l'enfant avait eu la force de régler ce problème, il l'aurait fait au moment où ce problème s'était présenté. La dernière étape fut de chasser individuellement, en les nommant tous les démons que Lynn connaissait personnellement. Elle établit une liste de près de 50 noms. Ça paraît incroyable, mais c'est absolument vrai. Lynn dut donc franchir un pas de foi et d'obéissance pour finir de commander à tous les démons de la quitter malgré les souffrances terribles qu'elle ressentait. Elle avait été habitée par des démons depuis sa naissance. Elle ne savait pas ce que c'était que de vivre sans eux. Ce sentiment de vide est très fréquent dans de telles situations. Après avoir achevé la liste des esprits familiers, elle pria pour une purification générale du corps, de l'âme et de l'esprit, comme indiqué dans les cas précédents. Lorsque tout ceci fut achevé, les pasteurs ont pu oindre d'huile la fille, donc la jeune femme maintenant, et on peut dire, ils ont dit, nous nous sommes joints à elle dans la prière pour demander au Saint-Esprit de la remplir complètement. Nous, donc les 3 pasteurs, nous avons aussi prié pour demander au Seigneur d'effacer complètement les souvenirs qui lui faisaient mal et de guérir toutes les blessures démoniaques qui lui avaient été infligées dans son corps physique, dans ses sentiments et dans son esprit. Lynn nous dit par la suite qu'au cours de la semaine qui suivit, Sa sensation de vide diminua de plus en plus, car il passa la plupart de son temps à lire la Bible et à prier. Elle pouvait littéralement sentir que la sainte parole de Dieu était en train de la remplir. Pendant quelques semaines, Lynn fut très maladroite. Il lui semblait qu'elle ne savait plus contrôler son propre corps. Eh bien, ceci était causé par le fait que depuis sa naissance, elle avait été habituée à avoir des démons qui agissaient à travers de son corps. Lynn peut, à présent, lire et comprendre les Saintes Écritures pour la première fois de sa vie. Elle peut aussi prier librement et apprendre par cœur des versets bibliques. Elle ressent une grande légèreté comme si elle avait été déchargée d'un très pesant fardeau. Lynn peut maintenant composer et même jouer de la musique, car elle savait qu'elle avait un don dans ce domaine, mais elle n'avait jamais pu composer que très peu de choses depuis sa conversion à Christ en 1974. Elle peut à présent composer librement. Tous ses cinq sens fonctionnent maintenant avec une beaucoup plus grande netteté, en particulier sa vue. Ceci est fréquent, car les démons empêchent ceux qui lient d'avoir des relations normales avec leur environnement physique. Ceci concerne particulièrement ceux qui étaient auparavant adeptes de religions orientales, dont le but est de se retirer complètement du monde physique afin que l'on ne soit plus conscient que du monde spirituel. Il lui est à présent beaucoup plus facile de combattre les démons parce qu'ils sont maintenant à l'extérieur et non pas, comme avant, à l'intérieur. Lynn n'éprouve plus de, on peut dire, Elle n'éprouve plus de ces ardents désirs de retourner dans ce qu'elle a vécu. De même, elle ne se sent plus du tout poussée à se suicider. Ses plus grands combats consistent encore à empêcher que ne se fasse le vide dans ses pensées, en particulier à l'approche des fêtes sataniques. Elle doit encore lutter de temps en temps contre des satanistes qui viennent pour la visiter en esprit, oui, ça existe, pour tenter de la forcer et à faire un voyage astral. Elle sent donc son esprit tiré en quelque sorte hors d'elle lorsqu'ils essayent de faire sortir son esprit de son corps. Cependant, elle peut à présent totalement leur résister au nom de Jésus-Christ. Elle a perdu toute capacité de voir dans le monde spirituel. Lynn a encore des cauchemars, c'est vrai, mais elle peut les affronter maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Elle ne peut plus faire de la lévitation, heureusement, et elle a perdu son pouvoir de télépathie et de la transmission des pensées. Vous savez, dans certains cirques, et mais aussi à la télévision, vous pouvez voir, par exemple, quand il y a des émissions de Grand Chapiteau, par exemple, eh bien, vous pouvez voir parfois des personnes qui ont des pouvoirs sataniques et faire des choses extraordinaires, de lévitation, où on voit une femme qui vole en l'air sans être tenue par quoi que ce soit, et beaucoup d'autres choses épouvantables, ou par exemple de la télépathie, de la transmission de pensées. Vous avez ça, par exemple, sur France 2, je crois tous les 15 jours, par Sébastien, donc celui qui dirige cela, le grand chapiteau. Eh bien, Lynn n'est plus maintenant influencée par toutes ces choses-là qui provoquaient en elle des réactions incontrôlables. Par exemple, l'un de ces signaux devait la pousser à se noyer, ce qui avait été provoqué en elle avec une peur intense de l'eau. Cette crainte est à présent totalement partie. Un autre signal, c'était le son des cloches, comme les cloches d'église. Lorsqu'elle entendait des cloches sonner, cela provoquait en elle une projection astrale. Ce signal ne provoque plus jamais aucun effet en elle. Pour terminer sur Lynn, le combat de Lynn a été très difficile, mais elle est enfin libérée de tous ces tourments démoniaques, de ce besoin intense de se suicider, de sa profonde dépression et tout le reste. Lynn est enfin libre de grandir dans le Seigneur. Ce mur qui a été placé dans son cerveau et qui l'a séparé du Seigneur a également été totalement détruit. Chers auditeurs et chères auditrices, le chemin qui mène à la liberté est long et difficile pour tous ceux qui ont subi des violences rituelles, mais la victoire, elle peut être remportée. Gloire soit rendue à Dieu. Chers amis, nous allons pour aujourd'hui terminer par la prière, cette exceptionnellement très courte étude. La prochaine, qui sera l'étude finale, sera beaucoup plus longue. J'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement et pour votre édification personnelle. Écoutez bien. Je suis là, désireux de vous aider à sortir victorieux de la tentation ou de l'épreuve. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Trouvez la force tranquille dont vous avez besoin dans son amour. Persuadez-vous que tout est bien. Les épreuves vous pressent, les tentations vous assaillent. Souvenez-vous qu'en Jésus, vous pouvez être plus que vainqueur, selon Romains chapitre 8, verset 37. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il domine toutes les situations et il vous garde, il vous aime, il vous guide, il est votre ami. Souvenez-vous qu'à partir du moment où vous avez pu lui dire du fond du cœur avec l'apôtre Pierre, oui, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, oui, qu'à partir de ce moment-là, il édifie sa maison et le Saint-Esprit sur le fondement solide de cette foi. Il a maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Alors les portes de l'enfer, les coups, les pensées négatives et les critiques malveillantes du monde ne sauraient prévaloir contre cette maison. Chers amis en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire dans les petites choses, la victoire dans sa force et dans sa puissance. Ce n'est pas une fois seulement dans votre vie que le Seigneur vous appelle à le suivre, mais à tout moment, dans l'affairement quotidien, au sein de la foule agitée, écoutez la voix de votre Seigneur et de votre ami. Il vous appelle, il vous invite à vous arrêter un moment et à prendre un peu de repos avec lui. C'est une invitation à devenir plus patient. C'est le rappel de la grande parole qui vous dit que votre force est dans le repos et la confiance, selon Ésaïe chapitre 30, verset 15. Mais c'est peut-être aussi une invitation à prendre le temps de parler à un tel qui est dans la peine, or peut-être même de prier avec lui ou avec elle. Chers amis, maintenant, nous allons terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, tu es la vie et la lumière de tout ce qui nous entoure, et tu es l'éclat brillant du jour, or la paisible clarté des nuits ne sont que le reflet de ta splendeur. Ta gloire se révèle, et toute beauté vient de toi, telle que les doux rayons du soleil à son déclin et les torrents de lumière qu'il verse sur la terre embellis. L'aspect des cieux, de la nature, resplendissante de richesse au retour du printemps, tout nous dit que ta puissance est absolument sans borne. Oui, tout nous dit que tu es amour. Oui, Seigneur, tu es amour, et ton évangile nous dévoile cette ravissante vérité avec plus de force encore que toutes les merveilles de la création, car tu as eu pitié de nous, et tu nous as donné un sauveur, un guide, un consolateur, un ami. Que nous sachions donc venir à lui, de prier, nous confier en lui et attendre de lui seul la force et le secours. Qu'il daigne donc nous conduire, comme par la main, à travers les épreuves et les difficultés de la vie. Seigneur, étends aussi ta miséricorde à tous ceux qui nous sont chers, à toutes les âmes qui sont encore éloignés de toi, et reçois notre humble supplication au nom adorable de Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, il est vrai que vous l'avez compris, Dieu vous aime, et il est de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et je vous demande, prions les uns pour les autres, c'est très important. Et maintenant, pour terminer cette courte étude, puisque la dernière de demain, Dieu voulant, sera beaucoup plus longue, eh bien, je vous dis simplement, je vous enlace maintenant avec tout mon amour et je vous embrasse. de tout mon cœur, sincèrement, et que Dieu vous bénisse. À demain, au revoir, mes très chers amis.